Tuki. Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dans Priorité Santé, aujourd'hui, nous allons parler du sexe masculin, du pénis. Beaucoup d'idées reçues circulent à son sujet. Par exemple, des préjugés laissant croire que chez les hommes, tout serait soi-disant mécanique, alors que chez les femmes, les choses se passeraient davantage dans la tête. Ce genre de considérations en termes de genre sont bien évidemment complètement fausses et on peut le dire carrément sexistes. Chacun, chacune d'entre nous agit au gré de ses émotions, ses sensations, son histoire, ses désirs, et toutes les questions ont leur place pour comprendre le fonctionnement du corps, du désir et de l'esprit. Notamment le fonctionnement du pénis, associé bien sûr à la sexualité, comme à la reproduction. Cette partie de l'anatomie masculine, tantôt fantasmée, tantôt associée à des symboliques de pouvoir, mais aussi bien plus concrètement, organe génital, organe sexuel, qui peut potentiellement souffrir, connaître des troubles du fonctionnement. Des problèmes dont les hommes compte tenu du poids des convenances sociales et culturelles, de tous ces blocages quand ils évoquent leurs intimités, donc ces questions dont les hommes ont encore beaucoup de mal à parler. Alors profitez de cette heure pour poser toutes vos questions puisqu'elle est bien là, docteur Catherine Solano, sexologue.
Bonjour, Catherine, bonjour. Caroline, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices.
Oui, on va écouter vos témoignages, on va répondre à vos questions sur l'anatomie, les érections, l'éjaculation, la fertilité. 50 minutes pour échanger sur ce thème et vous êtes déjà très nombreux au 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Solano, tellement de questions qu'on passe sans plus attendre la parole à un premier auditeur qui nous appelle de République démocratique du Congo, de Kinshasa. Cet auditeur, c'est Christian. Bonjour Christian.
Bonjour.
Le docteur Catherine Solano est à votre écoute.
Oui, bonjour docteur. Bonjour Christian. À tous les auditeurs de RFI.
Allez-y Christian.
Oui, vas-y. Docteur, j'ai un petit problème là ces derniers temps. Alors, à chaque fois quand je fais le rapport sexuel, je vois que ça ne dure pas. Donc, du coup, j'éjacule bien avant. C'est-à-dire, ça prend déjà une minute à deux minutes et du coup, j'éjacule. Alors, je ne comprends pas. Je me pose des questions sur ça et ma partenaire aussi, elle me pose aussi des questions. Mais pourquoi tu éjacules un peu si tôt et c'est quoi le problème? Alors, moi aussi, je me suis posé des questions. Alors, je voulais exactement savoir c'est quoi... le problème, c'est une maladie, je dois prendre le médicament ou comment.
Alors une question, Christian, vous avez quel âge?
J'ai 30 ans.
30 ans. Et vous êtes depuis longtemps avec votre ami ou c'est récent?
Oui, ça fait 5 ans depuis qu'on est ensemble.
Ok, et vous vivez ensemble?
Non, on ne vit pas ensemble jusqu'à là. Elle est encore chez ses parents.
D'accord. Alors, je vous demande ça parce que, en fait, avoir une éjaculation qui vient en une ou deux minutes, c'est tout à fait normal, soit au début de la vie sexuelle, quand on commence les premiers rapports sexuels, soit quand on a des rapports sexuels espacés, c'est-à-dire, si vous voulez. Pour que ça dure moins de une ou deux minutes, il faut avoir deux ou trois rapports sexuels par semaine pendant au moins un mois pour que le corps s'habitue à gérer l'excitation. Donc, c'est pas du tout une anomalie d'avoir des éjaculations rapides quand on a des rapports pas très réguliers. Et c'est comment dans votre cas?
À quelle fréquence est-ce que vous avez des moments d'intimité avec votre ami?
On vous pose des questions un peu intimes quand même.
Deux fois la semaine.
Deux fois par semaine, d'accord. Ok. Donc, oui. Donc alors, c'est déjà pas mal, mais pour certains hommes, il vaut mieux avoir un peu plus de rapports sexuels. Si vous voulez, la fréquence des rapports sexuels est directement liée à la durée du rapport sexuel. C'est-à-dire que plus on a des rapports fréquents, plus l'éjaculation vient tard.
Est-ce que d'accord. Ça veut dire, docteur Solano, qu'en quelque sorte, si Christian, on va dire, n'est pas rassasié, peut-être qu'il aurait plus envie de faire l'amour et dans ce cas-là, les relations pourraient durer un petit peu plus longtemps?
Ah oui,
est-ce qu'il y a une forme d'urgence?
C'est difficile de dire ça parce qu'on ne sait pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais ce que je sais, c'est que si Christian vivait avec son ami, que pendant 15 jours, mettons, ils avaient des rapports sexuels presque tous les soirs ou un jour sur deux, c'est-à-dire 4 fois par semaine, c'est possible que ça dure 3-4 minutes. Voilà. Mais je ne peux pas vous le garantir parce que, alors, il y a plusieurs raisons. Enfin, il y a des hommes qui seraient dans votre situation qui réussiraient à faire durer plus longtemps. Alors, pour réussir à faire durer plus longtemps, ce qui est important, c'est de savoir qu'aucun homme ne peut avoir un rapport qui dure très longtemps s'il fait des mouvements de va-et-vient très rapides dès le début. C'est-à-dire que les hommes qui vous disent « moi, ça dure 7-8 minutes », souvent, c'est parce qu'au début, ils commencent très lentement. Et du coup... c'est pas forcément comparable. D'autre part, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est la pratique de la masturbation. C'est-à-dire qu'un homme qui a eu l'habitude, adolescent, de pratiquer la masturbation, parce qu'on sait que 93% des hommes ont déjà pratiqué la masturbation avant 18 ans, donc un homme qui le fait tout le temps rapidement, bah parce qu'il a pas envie d'être surpris par sa famille puisqu'il vit chez ses parents, hein, eh bien il va entraîner son corps à avoir une éjaculation rapide. Donc il faut un temps de désentraînement pour réussir à faire durer, voyez ? Donc c'est pas... Alors, quand, par contre, on sait maintenant que quand un homme dit, moi, j'ai des rapports sexuels réguliers, fréquents, depuis 6 mois ou depuis un certain temps, ça dure toujours moins d'une minute. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas facile d'arriver à s'entraîner, à respirer doucement, à faire des préliminaires plus longs pour faire durer plus longtemps. Et c'est le cas où on conseille éventuellement de prendre un médicament pendant un certain temps avant le rapport sexuel pour que, au lieu que ça dure une minute, ça dure 2 ou 3 minutes et que là, on ait le temps d'apprendre à gérer l'excitation.
Mais docteur Solano, de toute façon, vous recommandez avant d'en arriver justement à ces médicaments, ouais, à changer, ouais, peut-être sa façon aussi de faire l'amour, d'y aller de façon différente pour essayer, voilà, de nouvelles choses.
Voilà, c'est-à-dire de nouvelles choses, ça veut dire commencer à demander à votre ami qui vous dit que c'est pas normal de lui dire il faut que tu me fasses beaucoup de caresses préliminaires ailleurs que sur le pénis, sur les épaules, etc., sur les cheveux, sur les pieds, sur tout le corps mais pas sur le pénis. Ensuite, il faut que vous choisissiez plutôt une position où vous êtes allongé sur le dos et que votre ami est sur vous, parce que ça a tendance à durer plus longtemps dans cette position si vous ne bougez pas. Il faut que ce soit elle qui bouge. Ensuite, commencez des mouvements très lents au début. Quand vous sentez que l'éjaculation arrive et qu'elle s'approche, arrêtez, se retirer, se refaire des caresses et recommencer. C'est pour réhabituer votre corps à fonctionner autrement. C'est un peu une espèce de rééducation sensuelle, je dirais.
Voilà Christian pour ses conseils. On vous souhaite une excellente journée à Kinshasa. En RDC, on va partir tout de suite pour la Guinée où l'on retrouve Oumar. Bonjour Oumar.
Oui, bonjour.
Le docteur Catherine Solano est à votre écoute.
Oui, bonjour docteur, bonjour à tous les auditeurs.
À vous Omar.
Voilà, moi je voulais juste savoir si la masturbation peut-elle avoir des conséquences négatives à long terme sur la sexualité d'un homme. Mm-hmm. Et en plus, si elle peut provoquer aussi l'infertilité chez les gens, comme on l'entend souvent chez nous ici. Et la masturbation peut être la cause, une des causes de l'infertilité chez les hommes.
Vous dites... On l'entend. Qui sont ces personnes qui relayent ces informations sur le pseudo-rapport, hein, on va l'entendre avec vous, docteur Solano, qu'on va corriger tout de suite, sur ce pseudo-rapport entre la masturbation et l'infertilité. Qui le dit?
Oui, souvent, c'est les parents qui
les parents, disent. D'accord. Ouais. L'entourage. Ouais. D'accord. Docteur Catherine Solano,
alors,
pour répondre
suite,
à Oumar.
Ah oui, alors la masturbation, ça n'a jamais donné aucun problème d'infertilité. Ça n'a absolument aucun rapport. J'irais même bien au contraire. Ce qui peut donner des problèmes d'infertilité, c'est d'avoir des partenaires multiples et de pas utiliser de préservatif, parce qu'on va attraper des infections sexuellement transmissibles qui sont parfois source d'infertilité. Alors que si on est tout seul, ben on risque pas d'avoir une infection sexuellement transmissible. Donc il y a absolument aucun risque d'infertilité avec la masturbation. Mais 0,000.
Hein. Alors deuxième question d'Oumar, qui rejoint d'une certaine manière tout à l'heure la réponse que vous aviez faite à Christian, conséquences néfastes, peut-être que le mot est un peu fort, enfin des conséquences voilà, sur la sexualité.
Alors déjà sur la santé en général et sur la santé sexuelle aussi, il n'y a aucun problème avec la masturbation. Ça n'a jamais entraîné de difficultés, de problèmes de santé. On parlait de l'infertilité, mais c'est pareil pour le reste. Ça n'agit pas du tout sur le corps de manière néfaste. Sur la sexualité non plus. Alors, je vais mettre un petit bémol, mais qui est vraiment minuscule. C'est que, effectivement, si un homme pratique la masturbation très rapidement pour avoir un orgasme en 30 secondes, le problème, c'est que le jour où il va avoir des rapports sexuels, il va avoir tendance à avoir une éjaculation rapide. Au contraire, si un homme, ou d'une autre manière, si un homme pratique la masturbation d'une manière qui procure des sensations très différentes de la pénétration, c'est-à-dire par exemple s'il serre très fort son pénis dans sa main, il va s'entraîner à avoir une éjaculation, un orgasme avec des pressions très fortes que son pénis ne retrouvera pas dans le vagin. Donc il peut réussir, avoir du mal à avoir une éjaculation pendant un rapport sexuel. Mais c'est pas la masturbation par elle-même, c'est la technique qui, si elle est trop différente d'un rapport sexuel, peut un petit peu perturber l'apprentissage, mais c'est quelque chose qui se réapprend facilement. On peut changer de manière de faire, et puis ça n'entraîne pas de problème ni de désir, ni d'érection, ni etc. Donc ça, c'est important. Un autre petit bémol quand même, parce que de nos jours, quand on me pose cette question, quelquefois on parle de pornographie et pas de masturbation. Donc je fais bien la différence entre la masturbation classique, je dirais, où on fantasme, on a des idées érotiques dans la tête, et quand on regarde de la pornographie qui peut entraîner soit de l'addiction à la pornographie, soit une baisse du désir ou d'érection, parce qu'on s'habitue finalement beaucoup trop aux images pornographiques et ça marche moins bien dans la vraie vie. Mais c'est pas la masturbation qui est en cause dans ce cas-là.
Donc, deux choses à bien distinguer. Voilà, Oumar, pour cette réponse du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une bonne journée à Conakry. On va partir tout de suite on reste à Conakry, on reste en Guinée, oui, avec Mohamadi. Deuxième appel de la Guinée ce matin pour vous, docteur Catherine Solano. Bonjour, Mohamadi.
Bonjour, madame. Bonjour à toute l'équipe.
On vous écoute, Mohamadi.
Au fait, madame, je suis Mohamadi Diallo, étudiant. J'ai 24 ans. Depuis que je suis né, j'ai jamais fait l'amour. Je suis âgé de 24 ans. Est-ce que rester sans faire l'amour est bon pour la santé?
Alors, ne pas avoir de rapport sexuel, ça donne aucun problème de santé particulier. Je dirais même que vous êtes certain de pas transmettre une infection sexuellement transmissible à votre futur partenaire, mais vous n'aurez aucun problème de santé particulier. Donc ça, c'est clair. Il n'y a aucun problème à commencer sa vie sexuelle un peu plus tard que la moyenne.
Pourquoi ça vous inquiète, Mohamadi? Vous avez peur que justement le fait que vous n'ayez pas de relation sexuelle, ça ait des retentissements? Quel genre de retentissement?
Au fait, ça m'inquiète. Des fois, j'entends les gens dire que en faisant le rapport sexuel, c'est bon pour la santé, quoi. C'est juste ça, j'ai posé ma question.
Mais c'est pas parce que quelque chose est bon pour la santé que ne pas le faire, c'est mauvais pour la santé? Vous voyez ce que je veux dire? Ça va dans un sens.
Quand
mais bon.
On dit que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est comme un petit exercice physique, si vous voulez, mais si vous faites du footing, c'est aussi bon pour votre santé dans ces cas-là, par exemple.
Bon, voilà.
Il n'y aura pas de problème.
Mon
conseil, c'est choisissez bien votre première partenaire. Ne le faites pas parce qu'il faut le faire en se disant j'ai 24 ans, il faut absolument que je le fasse, par exemple. Choisissez quelqu'un d'aimant, d'attentionné, de généreux, et ça se passera très bien.
Voilà, Mohamadi, ce conseil du docteur Catherine Solano. Eh bien, beaucoup d'appels de Guinée, puisque Amadou est lui aussi à Conakry. À vous la parole, Amadou, bonjour.
Bonjour Caroline et bonjour à Catherine Solano.
Bonjour Amadou.
On vous écoute.
D'accord. En fait, j'ai écouté l'heure de l'une de vos émissions, je pense bien que c'est la semaine passée. Alors, le docteur Catherine Solano a parlé de l'infertilité. Mm-hmm. Donc, tout en disant que si, par exemple, les hommes qui portent des petits kilos très serrés peuvent créer de l'infertilité. Alors, sur ce, ma question est de savoir, parce qu'il y a certains hommes qui sont tout le temps en érection, alors ils sont obligés de porter des petits kilos très serrés pour dissimuler leur, disons, entre guillemets, leur sexe qui est un peu affiché. Donc, quel serait le problème par rapport à cela? Y a-t-il un problème?
Alors, c'est une question intéressante parce que je vais vous expliquer pourquoi les sous-vêtements serrés, ça peut poser des problèmes. En fait, ce qui pose problème, c'est pas du tout le pénis, ce sont les testicules. C'est-à-dire que ce qui joue sur la fertilité, c'est de réchauffer les testicules. Parce que pour que les spermatozoïdes soient en bonne santé, il faut que les testicules soient un peu au plus frais que le reste du corps. Donc, par exemple, les hommes qui travaillent devant un four toute la journée, je pense à des boulangers ou des ouvriers dans l'industrie, devant des machines qui chauffent très très fort, ça peut poser des problèmes de fertilité. Pareil, si vous mettez votre téléphone portable dans votre poche tout près de, qui arrive tout près de vos testicules et qui chauffe ce téléphone, eh ben c'est pas bon pour votre fertilité. Et donc les sous-vêtements serrés, c'est pas bon si ça frotte beaucoup au niveau des testicules et que ça les réchauffe. Mais honnêtement, c'est quand même assez rare d'avoir des c'est plutôt les jeans très très serrés. Ça a été accusé peut-être d'augmenter les problèmes d'infertilité, mais si vous avez envie que ça vous sert surtout au niveau du pénis, eh ben je dirais c'est quand même au-dessus, c'est pas le même endroit. Donc là, il n'y a pas de problème particulier, voyez.
Voilà, Amadou, vous avez une autre question?
Oui, bien sûr, j'ai une deuxième question. Mm-hmm. C'est exactement par rapport aux gens qui ont tout le temps l'air, disons, pénis, qui est en érection. Alors, est-ce que cela est un problème ou c'est bon pour la personne, en fait, tout le temps en érection?
Alors, il y a beaucoup d'hommes qui ont, si vous voulez, l'érection. Il y a deux sortes d'érections. Il y a les érections quand on a du désir, qu'on est avec une partenaire ou qu'on pense à quelque chose de sexuel. Et puis, il y a les érections automatiques. Quand on est très jeune, quand on est jeune, on a pas mal d'érections automatiques. Alors évidemment la nuit, comme tout le monde, mais dans la journée aussi. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent dans la journée, bah de temps en temps, je sens un début d'érection ou une érection assez forte quand même quand on est jeune. Et c'est signe en fait de bonne santé sexuelle, que le corps est bien réactif, que les artères fonctionnent bien. Donc ça n'est pas un problème. Et en général, ça diminue au fil des années en fait. Vous êtes assez jeune, je pense, non,
Amadou?
Oui, c'est ça.
Vous avez quel âge?
J'ai 23 ans.
Voilà, donc vous verrez qu'il y a des hommes, souvent des adolescents qui disent « Moi, non, mais je n'ose même pas aller à la piscine parce qu'en maillot de bain, on va voir que j'ai une érection. » D'où le succès des shorts pour aller à la piscine parce que ça se voit moins. C'est quelque chose de tout à fait normal que petit à petit, les hommes arrivent à gérer et puis leur érection devient moins rapide, je dirais moins fréquente et ça devient beaucoup moins embêtant par la suite. Et il y a beaucoup d'hommes de 50 ans qui diraient « Oh, j'aimerais bien, comme Amadou, avoir des érections plus souvent dans la journée, je me dirais, c'est que ça marche bien, voyez.
Ouais, donc, pas toute la journée inquiéter. Non plus. Hein.
Oui, mais vous n'avez pas une érection toute la journée.
Ouais, c'est peut-être aussi ce qu'il faut expliquer à Amadou, peut-être que c'est pas non plus toute la journée comme il le dit dans son message.
Ce que vous dites, vous, c'est quand même pas 24 heures sur 24, votre pénis est en érection.
Non, pas ça.
Non, c'est que ça vient et ça repart, ça revient de temps en temps, mais ça vous gêne.
Oui, ça gêne.
Voilà. Il y a beaucoup d'hommes que ça gêne. Votre question, elle est très intéressante. Il y a des hommes qui me disent, mais est-ce que je suis un obsédé sexuel puisque j'ai des érections dans la journée? Je pense à un de mes collègues qui me disait, moi, je suis en train de travailler. C'était un collègue. J'ai une érection alors que je pense à rien de sexuel. En fait, quand on est jeune, c'est normal, ça veut pas dire qu'on est un obsédé sexuel du tout, c'est juste bah vous envoyez un petit message à votre sexe et vous lui dites j'ai compris, tu fonctionnes bien, merci. Et voilà, c'est tout hein.
Reste calme. Voilà Amadou, très bonne journée à vous à Conakry. On part pour la Côte d'Ivoire tout de suite pour Abidjan où l'on retrouve Mozart. Bonjour Mozart.
Bonjour.
On vous écoute Mozart, docteur Catherine Solano à votre écoute.
Bonjour docteur.
Bonjour Mozart.
Moi, mon problème, c'est les préservatifs. C'est-à-dire que je n'éprouve aucun plaisir en utilisant les préservatifs. Mm-hmm. Donc, je vais préciser que avant, je pratiquais la masturbation parce que je consommais de la porno. Mm-hmm. Et là, je n'avais pas de copine. Mais depuis 2 ans, je suis avec quelqu'un. Mais quand nous avons essayé avec les préservatifs, ça ne marchait pas parce que je n'arrivais pas à éjaculer. Je précise aussi que je ne suis pas très fidèle, j'ai essayé avec d'autres filles, c'est la même chose.
Et avec les autres filles, excusez-moi Mozart, et avec les autres filles, comme vous dites, vous n'utilisez pas non plus de préservatif?
Non.
Donc vous risquez de contaminer, s'il y a un problème, s'il y a une IST, vous risquez de contaminer votre copine qui... Est-ce que votre copine est au courant que vous lui faites des infidélités? C'est quelque chose... Vous êtes un couple ouvert, vous en parlez?
Non, je ne suis pas un couple ouvert. En fait, ce n'est pas un couple ouvert. Bon, c'est ma copine, on se voit chaque week-end.
Mm-hmm.
Donc, ce n'est pas une relation assez poussée. De...
Moi, je vais bien sûr donner la parole au docteur Catherine Solano, mais vous n'avez pas la crainte quand même du risque de contracter une IST et du risque de revenir justement cette fin de semaine faire l'amour avec votre amie et la contaminer?
C'est ça le problème. Donc, ça c'est devenu un blocage un peu... Ça m'inquiète de jour en jour.
Oui, mais ça vous inquiète, mais pas jusqu'au point de mettre un préservatif. Vous continuez quand même à... Vous continuez quand même, donc ça vous inquiète, mais pas plus que ça non plus, quoi.
Ah oui.
Oui, d'accord. Docteur Catherine Solano, à vous parler.
Oui, je ne sais pas si je dois repasser une couche, parce que je pense comme Caroline, c'est que vous prenez des gros risques pour votre santé, parce que vous pourriez devenir séropositif pour le VIH, et ça, c'est quand même une sacrée catastrophe, même si maintenant, il y a des traitements. Et en plus, ça, c'est vous qui prenez vos risques, mais vous pourriez contaminer votre amie, mais pas que votre amie, c'est
aussi
vos
les autres jeunes filles, les
conquêtes. Qui, elles-mêmes, pourraient contaminer d'autres personnes. Donc, c'est vraiment, disons que vous êtes une personne à risque, quoi. Donc c'est il faut faire quelque chose, quoi. Donc il y a plus, bon, à part les considérations comme ça, je vais vous dire ce que vous pourriez quand même proposer à votre ami, c'est d'utiliser des préservatifs féminins, parce que si vous n'utilisez pas de préservatif, il y a le préservatif féminin, ça fait pas les mêmes effets. Je trouve que vous devriez absolument tenter ce genre de préservatif.
Mais sinon, excusez-moi, mais utiliser le préservatif féminin, ça demanderait peut-être aussi à Mozart d'expliquer à sa copine pourquoi elle en a besoin, et d'imposer à Mozart de lui expliquer qu'il va aussi avoir d'autres aventures en dehors d'elle. Donc tout ça, ça complique toujours la chose.
Ça complique, mais disons que le fait d'avoir des multipartenaires, ça fait qu'on est dans une population très à risque, hein, et donc il n'y a pas trop d'autres solutions. Hein.
Et l'autre solution, c'est peut-être de... Il n'y a pas une forme, justement, de rééducation ou d'apprentissage pour avoir ce plaisir avec un préservatif? Parce qu'il y a quand même des millions, des milliards de personnes qui l'utilisent sur cette planète et qui ont du plaisir avec un préservatif.
Tout à fait. Donc déjà, il faut choisir un préservatif très fin, parce que maintenant, il y a quand même des préservatifs très, très fins. Je pense en France, où on a des préservatifs remboursés par l'assurance maladie. J'étais au congrès, ils sont comme les autres, mais ils nous en ont... prêtés pour nous montrer, ils sont hyper fins, donc, et tout en étant solides, hein. Donc je pense que faut que vous testiez peut-être plusieurs préservatifs, et peut-être aussi vous dire peut-être qu'au début je vais pas sentir grand chose, mais je vais m'habituer. Et vous avez raison aussi quand vous parlez de pornographie et de masturbation. C'est possible, peut-être que vous pourriez essayer la masturbation avec préservatif et sans pornographie, de manière à vous réentraîner à avoir des sensations suffisantes, si vous voulez. Parce que le problème, c'est que peut-être que vos pratiques ont... que vous avez besoin de stimulation très forte pour ressentir quelque chose, mais il faut se réhabituer. Enfin, et je trouve... Ou alors, l'autre solution, c'est de vous dire, eh ben, j'ai des rapports sexuels sans pénétration, parce que c'est quand même, si votre ami vous, je sais pas si vous contractez la syphilis ou des chlamydia, ou ça peut donner des... On parlait de la masturbation et de l'infertilité, et j'ai dit le gros risque de l'infertilité, c'est le multipartenaire. Et ben là, vous prenez des risques d'infertilité, par exemple vous risquez d'attraper une maladie sexuellement transmissible et d'avoir les petits canaux qui transportent les spermatozoïdes bouchés, ou de boucher celle de votre ami sans même forcément s'en rendre compte.
Mozart, si vous nous avez appelé aujourd'hui, justement, est-ce que c'est parce que vous voulez changer de comportement par rapport à ça? Vous voulez justement réutiliser des préservatifs, ou pour vous, c'est fini, vous ne voulez plus en entendre parler?
Effectivement, je veux utiliser. Et souvent, je prends, au début, je mets, mais jusqu'à un moment, ça devient un peu enlaçant, j'enlève. Je n'arrive plus à supporter.
Parce que avec le préservatif... Parce que vous avez du mal à arriver à l'éjaculation avec le préservatif, c'est ça?
Effectivement.
Dans ces cas-là, ce qu'il faut à la limite, c'est arrêter le rapport sexuel, enlever le préservatif et faire des caresses, demander à votre partenaire de caresser votre pénis pour avoir une éjaculation, mais pas le faire pendant la pénétration. Là, je donne des conseils pratiques.
C'est pratique, mais au moins ça protège la partenaire.
Mais au moins ça protège.
D'accord.
Et puis peut-être qu'il faut trouver une manière de dire à votre ami, écoute, je suis embêtée, mais parce que je sais qu'une de mes... Même si vous voulez pas lui dire, je te trompe, parce que c'est pas évident, lui dire, j'ai une ex-amie qui m'a dit qu'elle avait une infection, maintenant je veux qu'on fasse très attention, parce que je voudrais pas te refiler ça si jamais j'ai un risque de l'avoir. Vous voyez, trouver une manière aussi pour...
Et je vais vous dire quelque chose, Mozart, demain on va faire une émission spéciale sur RFI, sur le site d'Action, et moi ce que je vous dis, et je pense que c'est un message qu'on entendra pendant l'émission de demain, comme vous l'avez reconnu vous-même, vous avez eu des comportements à risque, il faut impérativement aller vous faire dépister.
Oui.
Ça, c'est la base.
Tout à fait,
vous
ouais.
faites dépister, vous savez où vous en êtes. S'il y a un problème, vous allez voir un médecin qui vous prendra en charge. En tout cas, avec les comportements que vous nous avez décrits, je pense qu'il est absolument impératif d'aller vous faire dépister et même de recommander à votre compagne également de le faire s'il y avait le moindre problème, le moindre souci.
Vous avez raison, Caroline. Ouais.
Mozart, voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Excellente journée à vous à Abidjan. On va partir pour le Cameroun, pour la ville de Maroua, où l'on retrouve Youssouf. Bonjour Youssouf.
Bonjour Caroline, bonjour Docteur Solano.
Le Docteur Solano est là pour répondre à vos questions. À vous Youssouf.
D'accord, mon inquiétude se base un peu sur un aspect physiologique de la sexualité humaine et beaucoup plus de l'homme. Puisque généralement, lors d'un rapport sexuel, je pense que dans les 5 secondes qui suivent la pénétration, il y a d'abord l'émission d'un liquide un peu moins fait que le sperme. Je ne sais pas si c'est le liquide féminin. Et le sperme vient juste après. Bon, maintenant, dans la masturbation, je me rends compte que ce liquide-là ne précède pas le sperme et directement le sperme vient après l'orgasme. Je me demandais si cela est d'abord normal et comment est-ce qu'on peut l'expliquer.
Alors... Le liquide dont vous parlez, c'est le liquide pré-éjaculatoire qui vient des glandes de Cooper. Et en fait, il existe qu'il y ait un rapport sexuel avec pénétration ou qu'il y ait masturbation. Ça ne change rien du tout. Alors, peut-être que vous ne l'observez pas avec la masturbation parce qu'en fait, ce liquide ne sort du pénis que si l'érection est assez forte. Parce qu'en fait, c'est le gonflement du pénis qui appuie sur ces petites glandes et qui fait sortir ce liquide. Donc peut-être que votre érection est un peu moins forte par la masturbation au début, je sais pas. Mais normalement, il n'y a pas de différence particulière entre la masturbation et la pénétration. On appelle des fois ça liquide séminal, mais c'est pas son vrai nom, parce que le liquide séminal, c'est un liquide qui est dans la composition du sperme et qui est fabriqué par les vésicules séminales. Donc normalement, il n'y a pas de différence. Alors, il faut voir aussi qu'il y a des hommes qui disent « Moi, ce liquide-là, avant l'éjaculation, j'en ai jamais. » Parce qu'il y a des hommes qui ont des glandes de Cooper assez petites, d'autres beaucoup plus grandes. Et il y a des hommes qui ont beaucoup de liquide qui sort doucement, en coulant comme ça un petit peu quelques gouttes. C'est un liquide un petit peu élastique et transparent, qui en ont beaucoup, d'autres très peu. Ça change pas grand-chose pour le rapport sexuel, sauf que ça peut faciliter la pénétration parce que ça sert un petit peu de lubrifiant, en fait. Hein. Mais normalement, c'est peut-être parce que vous, je sais pas pourquoi, mais normalement, il n'y a pas de différence entre masturbation et pénétration. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Youssouf, est-ce que c'est suffisamment complet à vos yeux?
Plus ou moins, parce que j'insiste dessus, parce que lors d'un rapport sexuel avec pénétration, on ressent la sortie de ce liquide. Contrairement à la masturbation, non, on ne le sent pas. Et peut-être qu'il se mélange une fois avec le sperme, mais on ne le sent pas sortir tout seul.
Parce que je me demande si la différence, c'est pas aussi que pendant la pénétration, c'est la lubrification de votre partenaire qui vous fait ressentir qu'il y a du liquide. Je sais pas, hein, je me pose la question.
Non, puisque la sortie de ce liquide est sentie comme la sortie du sperme en tant que derrière, il y a des émissions vraiment au niveau du pénis.
Ben, je pense que c'est parce qu'il y a une différence de qualité de l'érection. Alors, parce que je vois pas ce que ça peut être autrement. Hein.
Voilà, Youssouf, pour ces éléments de réponse du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une bonne journée au Cameroun. On va prendre en ligne tout de suite Roméo, qui est en Côte d'Ivoire, dans la ville de Bouaké. Bonjour, Roméo.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors, bonjour, docteur.
Bonjour, Roméo.
À chaque fois que j'ai des rapports sexuels, quelle que soit la douceur des rapports, j'ai des entailles sur le pénis, des irritations à chaque fois. On a essayé les lubrifiants, mais à chaque fois, des entailles sur le pénis. Donc, je voudrais savoir si c'est le fait d'une IST ou bien si c'est la peau du pénis qui serait devenue un peu trop faible.
Alors, écoutez, c'est assez difficile de vous répondre parce que pour ça, il faudrait un examen. Mais ce que vous décrivez, ça fait pas tellement penser à une IST, hein, une infection sexuellement transmissible. Ça fait plutôt penser à quelque chose auquel on pense pas souvent, c'est des maladies de peau au niveau du pénis. Je saurais pas vous dire quoi, mais par exemple, je prends un exemple, il y a des hommes, d'ailleurs des femmes aussi, hein, au niveau de la zone sexuelle, qui ont du psoriasis, par exemple, ou de l'eczéma, ou des choses comme ça. Donc, les maladies de peau qu'on peut avoir sur le visage ou n'importe où sur la peau peuvent aussi exister au niveau de la zone sexuelle. Et dans ces cas-là, le meilleur médecin à consulter, à part un médecin généraliste, ça sera un dermatologue qui va dire, mais c'est tel et tel. Donc, c'est plutôt des traitements dermatologiques.
Et il y a même certains dermatologues qui ont une spécialité aussi de vénérologie. Donc ouais, là, il pourrait y avoir...
Dermatologue,
vénérologue. Ouais. Donc voilà. Là, il pourra, en une seule consultation, avoir un avis très important, justement, pour avoir de meilleures relations sexuelles sans ces souffrances. Voilà. Roméo, vous avez les moyens à Boisquier de consulter un dermato? Il y en a dans la ville de Boisquier que vous connaissez?
Il y en a.
Donc voilà. C'est la meilleure chose à faire, c'est consulter.
J'irai voir un dermato, voilà. Et je le dis pour tous les hommes qui nous écoutent, c'est que quand il y a un problème de pénis, on pense souvent aller voir un urologue, par exemple. Mais quand c'est un problème vraiment qui a l'air un problème de peau, un dermatologue peut être plus indiqué parce qu'il va être beaucoup plus pointu sur ces problèmes-là. Et je vous dis tout de suite, si votre dermatologue vous donne un traitement qui ne marche pas, il faut retourner le voir et lui dire votre traitement n'a pas marché. Parce que la dermatologie, c'est très compliqué. Donc, il voit un problème de peau sur votre pénis, ils vont dire ça, il y a des 60% de chances que ça soit tel problème. Et si ça se trouve, vous êtes dans les 40%, donc il va dire ah, c'était pas ça, donc c'est autre chose. Donc il faut pas hésiter à retourner, que ça soit pour le pénis ou ailleurs d'ailleurs.
J'ai une question peut-être un petit peu personnelle, Roméo, à vous poser. Si vous allez en consultation justement pour ce problème qui est lié à cette partie de votre anatomie, est-ce que vous êtes gêné d'aller voir le médecin et de lui montrer? Moi, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas consulter parce qu'ils n'ont pas envie de se montrer.
Oui, je suis vraiment gêné. Je l'ai fait une fois, mais c'est devenu tout petit.
C'est ça, mais c'est bien important. Moi, je vais vous dire quelque chose, Roméo, hein, juste parce que beaucoup de gens y pensent. Quand on est un bébé, le médecin, il voit très souvent notre anatomie. Je vois pas pourquoi les choses changeraient quand on grandit. Ouais. Voilà. Voilà.
Et puis je vais vous dire une chose, c'est pas forcément évident. Par exemple, moi je suis médecin sexologue, c'est pas spécialement agréable non plus si je vais voir un gynécologue par exemple. Eh ben oui, mais c'est important. Et je dis j'ai déjà dit à mes enfants, ces organes-là sont aussi importants que le reste du corps et il faut les soigner comme le reste. Vous auriez des coupures sur la bouche tout le temps, ça vous gênerait pour manger, vous direz je vais pas rester comme ça, il y a pas de raison de rester comme ça. Et en plus, quand on va voir un médecin spécialisé, il voit ça toute la journée, donc lui il est pas gêné du tout.
Est-ce que ça vous a freiné justement pour aller consulter, ce côté de, on va dire, d'exhibition physique? Est-ce que ça vous a retardé la consultation?
Oui, ça m'a retardé.
Ouais. Donc maintenant,
eh ben,
je vais vous donner
un conseil. Quand vous voyez le médecin, vous lui dites, écoutez, je suis très embêtée parce que c'est au niveau de mon intimité que j'ai un problème.
Je suis pudique.
Et vous lui dites, je suis embêtée. C'est encore mieux parce que on a toujours peur que le médecin croit qu'on veut s'exhiber. Vous voyez, et le médecin va se dire, bah, il vient, alors que si vous dites, je suis gêné, il va se dire, bon, bah, c'est quelqu'un qui est vraiment gêné. Et faut pas avoir honte de le dire, au contraire.
Voilà. Donc, il faut aller consulter pour votre problème dermatologique, a priori, ou autre, voir un médecin qui sera compétent pour poser le bon diagnostic. Très bonne journée à Boisquier. Roméo, on part pour Bukavu. Et enfin, nous avons une femme. Non, c'est un homme, il s'appelle Carole, je me suis trompée. J'espérais, vous savez, parce que quand on fait ces émissions sur la sexualité, on lance toujours nos fameux appels aux auditrices pour qu'elles appellent.
Surtout sur le pénis.
Bah oui, parce qu'elles connaissent aussi malgré tout, hein, même si
elles
les concernent.
Elles en ont déjà vu.
Voilà. Donc, mais aujourd'hui, vraiment, personne, aucune femme n'a répondu à notre appel. Carole, prénom masculin, je me suis trompée, je me dédie et je m'excuse. Bonjour Carole, à bouc à vous.
Ah, bonjour Caroline, bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour à vous.
Je suis vraiment content. Je suis vraiment content de participer à l'émission. C'est vraiment un espace qui me permet de m'exprimer en tant que femme parce que déjà, c'est pas facile de parler de sexualité dans nos familles africaines, vu nos coutumes. Et ma question est là sur le cas de la circoncision. Elle s'annonce en deux volets, à savoir. S'il y a un impact lorsqu'une personne est circoncise en termes de croissance du pénis. Le deuxième volet, il est de savoir si la personne circoncise, enfin un sujet circoncis ou un sujet non circoncis, lequel est plus exposé aux maladies sexuellement transmissibles.
Alors,
en d'autres termes, j'aimerais savoir si la circoncision présente des avantages sur la santé sexuelle. Merci.
Alors, je vais répéter, juste parce qu'on a entendu, mais pour que ce soit bien clair, la ligne n'était pas excellente avec Bukavu. Deux questions. L'impact de la circoncision sur la taille du pénis. Vous avez même posé la question sur la croissance. Et puis l'autre question, docteur Catherine Solano, que vous pose Carole de Bukavu, c'est en termes d'exposition aux maladies sexuellement transmissibles.
Alors, par rapport à la taille du pénis, la circoncision n'a pas d'effet particulier. La taille du pénis grandit au moment de la puberté sous l'effet des hormones sexuelles, et que on soit circoncis ou pas, ça n'y change rien du tout, hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de différence. Par rapport aux infections sexuellement transmissibles, c'est vrai, on sait, parce qu'il y a eu plein d'études faites en Afrique du Sud, que le fait, quand on est un homme circoncis, ça va diminuer la surface par laquelle les virus peuvent entrer dans le corps, en particulier pour le VIH, donc pour le virus du sida. Et donc, quand un homme est circoncis, ça diminue les risques de transmission du virus du sida. Donc, d'ailleurs, il y a des populations où il y a les risques très très élevés. On a préconisé de faire des circoncisions en disant ça diminue la transmission. Donc, les hommes ont moins de risques d'attraper, je dirais, le virus. Mais du coup, ça protège aussi les femmes, parce que si il y a moins d'hommes qui sont séropositifs, il y aura moins de femmes. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est quand même que quand un homme est circoncis, s'il est séropositif, parce qu'il peut quand même l'être, sa partenaire a autant de risques d'être contaminé, de capter le virus du sida. Et puis, ça protège un petit peu, mais pas totalement.
Ça ne remplace pas le préservatif.
Ça remplace pas du tout le préservatif. Donc, c'est vrai que ça diminue les risques, mais même quand on est circoncis, faut absolument utiliser un préservatif, parce que même un risque moins élevé, c'est quand même un risque qui n'est pas du tout négligeable. Donc, disons que c'est intéressant au niveau statistique dans les populations. Au niveau individuel, on peut pas dire que ça va vous protéger à tout prix, forcément, quoi.
Voilà pour ces deux réponses, Carole. On vous souhaite une excellente journée. À Bukavu, en RDC. On part pour l'autre Congo, Congo-Brazzaville précisément, où nous sommes en ligne avec Kevin. Bonjour, Kevin.
Bonjour, docteur Catherine. Bonjour à toute l'équipe des Priorités Santé.
Bonjour, Kevin.
Allez-y, on vous écoute.
Ah oui, moi j'ai un problème au niveau de mon érection à ces derniers temps. Si j'ai fait l'amour, après l'éjaculation, je perds complètement le désir. Pour revenir encore en érection, il me faut au moins 24 heures. Mm-hmm. Et je voulais savoir, est-ce que ce phénomène est lié à une maladie ou quoi?
Alors, non, c'est pas lié à une maladie, c'est que après l'éjaculation, il y a forcément une période pendant laquelle on ne peut pas avoir une érection, et pendant laquelle on n'a pas du tout de désir, et pendant laquelle très souvent on n'aime pas qu'on nous touche, ou c'est pas agréable, surtout au niveau du sexe. Habituellement, si j'ai bien compris, vous avez 26 ans, c'est ça?
Ah oui, c'est ça, oui.
D'accord. Habituellement, chez un homme de 18-19 ans, cette période pendant laquelle, après l'éjaculation, il faut attendre que une ou deux minutes pour avoir une deuxième érection. À 26 ans, c'est un petit peu plus, mais pour la plupart des hommes, c'est plutôt, je dirais, 10 minutes, ou, enfin, ça dépend. Et je dirais que, quelque part, vous n'avez peut-être pas beaucoup de chance, parce que chez vous, la période réfractaire est plus longue. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas grand-chose. C'est la manière dont notre corps fonctionne. Le bon côté, je dirais, c'est que souvent, et vous allez me répondre, comme chez vous, quand on a une période réfractaire assez longue, souvent, on n'a pas de problème d'éjaculation précoce. Est-ce que c'est votre cas?
Ah oui, c'est ça, oui.
Vous n'avez pas de problème à ce niveau-là?
Non, c'est pas le problème à ce niveau.
Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une capacité à faire durer longtemps le rapport sexuel. Et donc, ce qu'il faut, c'est que vous preniez le temps, vous fassiez l'amour longtemps. Peut-être même que si vous avez une amie, vous faites l'amour le matin, vous voulez refaire l'amour le soir, il faut pas éjaculer le matin. Il faut vous dire, je vais arrêter avant d'avoir une éjaculation, de manière à pouvoir recommencer ce soir. Et ça, c'est une pratique que les Chinois ont beaucoup développée dans le Tao chinois, parce qu'il disait un homme qui fait ça, qui éjacule moins souvent, va vivre beaucoup plus longtemps, parce qu'il pensait qu'on gardait l'énergie sexuelle à l'intérieur de soi, et que si on n'éjaculait jamais, on serait immortel. Bon, ça c'est un petit peu quand même du rêve, mais je pense qu'il faut que vous vous adaptiez à la manière dont fonctionne votre corps, et pas que vous vous disiez, je dois trouver une solution pour être comme les autres.
Voilà, Kevin, pour ces explications.
Très bonne journée à Brazza. On part pour le Tchad, pour N'Djamena, où l'on retrouve Mahamat. Bonjour Mahamat.
Oui, bonjour Caroline Paré, bonjour Dr Catherine Solano.
Bonjour Mahamat. On vous écoute Mahamat.
Ok, ma question est de savoir quelle est la taille normale du pénis en érection et au repos, et la circonférence en érection et au repos. Et puis, est-ce que la température joue aussi sur la taille du pénis? Et puis, est-ce que l'hymen aussi joue sur la taille du pénis?
Alors, cette fameuse question de la taille, hein, Catherine Solano, eh bien, on la retrouve. On a eu beaucoup, beaucoup de messages, des centaines de messages aujourd'hui sur Facebook. Il y a aussi Habib de Yaoundé qui dit « Existe-t-il des produits pharmaceutiques pour agrandir, allonger le pénis ? Si oui, lesquels ?» Voilà, enfin, c'est vraiment une question qui intéresse beaucoup, beaucoup les hommes, cette fameuse taille du pénis.
Ouais, alors, la première chose que je vais dire, c'est je vais demander à Mahamat, comme c'est lui qui nous l'a posé, pourquoi c'est aussi important pour vous de connaître la taille du pénis ?
Oui, oui, parce que moi, j'aimerais connaître la taille de mon pénis. Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à connaître la taille exacte de mon pénis. Par exemple, ici, s'il fait très chaud, je sors sur le soleil un peu, et je reviens, je vois ça diminue de taille. Et puis, si, par exemple, il fait nuit, quand je suis tranquille, je me repose, je vois ça augmente de taille.
Oui,
et puis, quand je me sens un peu heureux, je suis en bonne humeur, je vois aussi... Ça augmente de taille.
Alors
c'est ça chez moi, c'est bon.
Eh ben, c'est que vous êtes normal. Hein. Tous les hommes sont comme ça. C'est-à-dire que, en fait, la taille du pénis dépend déjà de la température. Si vous allez dans un lac ou dans une rivière, vous baignez dans de l'eau glacée, votre pénis, il va diminuer de moitié, peut-être. Je sais pas moitié, mais il va beaucoup diminuer parce que les vaisseaux se rétractent au froid. Au contraire, quand il fait plus chaud, il va avoir pas trop chaud, mais quand il fait plus chaud, il a tendance à être plus grand. Ça, c'est normal. C'est pareil au niveau de l'humeur, c'est très intéressant ce que vous avez observé parce que en fait, le stress, ça resserre les artères et donc y compris au niveau du pénis. Donc quand on est très stressé, le pénis peut diminuer de taille. Au contraire, quand on est heureux et détendu, ben les artères se relaxent, la tension artérielle diminue et les artères du pénis, comme elles se relaxent, ben il est plutôt de volume plus grand ou plus long. Donc ça, c'est tout à fait normal et ça fait ça chez tous les hommes. Donc, alors justement, d'où votre question, comment on fait pour le mesurer, parce que si je me trempe dans l'eau glacée et que je le mesure, je vais dire mon pénis fait 3 cm, il n'est pas normal. Ça, c'est sûr. Et donc, effectivement, quand un médecin mesure le pénis, il y a une méthode, c'est qu'il ne faut pas être dans une pièce où il fait trop froid, parce que forcément, bah, la mesure sera fausse. Et ensuite, la technique, c'est qu'il faut tirer sur le pénis et le relâcher, parce que si jamais il s'est un petit peu rétracté, parce qu'il fait froid, parce qu'on est stressé, on va trouver 1 cm de moins. Donc on tire, le médecin, ça se fait surtout chez les enfants, hein, de mesurer le pénis, parce que c'est pour détecter les anomalies, les malformations sexuelles. Donc on tire et ensuite on va mesurer. Et il faut mesurer à partir de l'os du pubis, pas à partir de la peau. C'est-à-dire qu'il y a souvent 1 cm, ou enfin ça dépend de l'épaisseur de graisse sur le pubis, mais on mesure à partir de l'os. C'est très important comme précision, parce qu'il y a beaucoup... Par exemple, un homme qui est obèse, moi j'ai eu un patient qui était obèse, pourtant il avait 26 ans, et il m'avait dit « mon pénis, il est gros comme un pois chiche ». En réalité, ce jeune homme, il était beaucoup trop gros et il avait une couche de graisse qui faisait 7-8 cm ou 9 cm sur son pubis. Et donc, son pénis étant accroché au pubis, eh ben, on voyait qu'un petit bout qui ressortait alors que son pénis était normal. Donc, vous voyez, je vous explique des choses parce qu'il y a énormément d'hommes complexés. Et il y a même eu une étude sur la taille du pénis et ils avaient pris 1000 hommes qui consultaient pour un pénis trop petit. Et pour étudier. Et est-ce que vous imaginez le pourcentage d'hommes qui avaient vraiment un micro-pénis? Eh ben, je vais vous dire, c'était 0%. Sur 1000 hommes qui consultaient pour un pénis trop petit, c'était en Angleterre, il n'y avait aucun homme qui avait vraiment un pénis anormal. Donc, c'est pour vous dire que c'est souvent dans la tête.
Une question aussi de complexe.
Voilà. Alors, je vais quand même vous donner des mesures, hein, mais sachant que j'ai dû me replonger dans les livres parce que, je disais à Caroline tout à l'heure, c'est un chiffre que je n'arrive pas à garder en tête, la taille normale du pénis, tellement, pour moi, c'est pas très intéressant comme
question. Oui, mais à partir du moment où vous dites taille normale, ça veut dire que les gens pensent qu'il y a une taille normale.
En fait, donc on passe à la taille moyenne.
Voilà, plutôt la taille moyenne.
Voilà. Alors, la taille moyenne du pénis au repos, non étiré quand on tire pas dessus, mais on l'a étiré avant pour le relâcher, c'est entre 7 et 10 centimètres. Disons 80% des hommes ont une taille de cette, un pénis de cette taille-là. On considère qu'une taille anormale, c'est-à-dire vraiment là, c'est pas normal, on peut, c'est moins de 4 cm au repos, en partant de l'os du pubis toujours, et moins de 7,5 cm en érection. Ça, d'accord? Et donc, en moyenne, en érection, et je vous donne les chiffres de Germain et Langis, ça s'appelle, c'est un livre sur la sexualité, c'est des spécialistes canadiens, mesure entre 12 et 17 cm de longueur pour 4 cm de diamètre. Et je vais ajouter un chiffre que vous me demandez pas du tout, mais qui est vraiment important pour moi, c'est la taille du vagin. Parce que si vous voulez, en fait, on dit, là, est-ce que la taille, beaucoup d'hommes disent, j'aimerais bien avoir un très grand pénis, ça sert à rien parce que la taille moyenne du vagin au repos, c'est 8 cm et en état d'excitation, ça s'allonge un peu, c'est 12 cm. Donc ça sert vraiment à rien d'avoir un pénis qui fait 25 ou 30 cm parce que de toute façon, il pourrait pas rentrer entièrement dans le vagin de la partenaire et au contraire, ça risquerait peut-être même de forcer si on veut vraiment tout le rentrer, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà.
Voilà ma mat.
Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui, oui, merci beaucoup. Je suis tellement à 100% satisfait.
D'accord. Et j'ai oublié un chiffre, je crois. Où est-ce que je l'ai noté ? Vous voyez, je l'ai sous les yeux. C'est alors la taille normale en le diamètre. Voilà, je vous ai pas mis le diamètre en érection. C'est la moyenne, c'est 4 cm.
Voilà, c'est voilà. Complet. La leçon de mathématiques est absolument complète. Voilà. Il nous reste peu de temps. Malgré tout, on va prendre Romaric qui est en ligne du Gabon de Libreville. Bonjour Romaric.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, je venais à propos de l'herpès, en fait.
Allez-y, mais allez-y assez rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, sinon on ne pourra pas répondre.
J'ai eu des poussées de poire sur mon pénis après des rapports sexuels non protégés avec une de mes partenaires, et les poussées de poire sont parties parce que j'ai utilisé du cytéal, j'ai pris un antibiotique, mais je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas un traitement définitif pour ça, en fait.
Alors,
puisque l'année passée, en décembre, j'ai fait mes tests, c'était négatif en fait.
Alors,
là, ok, je vous écoute.
Non, excusez-moi, comme Caroline dit qu'il faut aller vite. Alors, l'herpès, c'est un virus qu'on ne sait pas éradiquer de l'organisme. Donc, quand on en a une fois, il reste toujours dans le corps. On sait que c'est beaucoup plus contaminant, évidemment, pendant les crises. Si vous avez une crise, là, il faut vraiment pas avoir de rapport sexuel. En dehors des crises, c'est beaucoup moins contagieux, mais même en dehors des crises, ça peut se transmettre. Ce qui veut dire que, imaginez un couple qui est marié depuis 20 ans, la femme, tout d'un coup, a une crise d'herpès génitale, ou l'homme, ça veut pas dire qu'ils ont trompé leur partenaire, c'est peut-être que
il était endormi
depuis 20 ans, et suite à une petite baisse d'immunité, ça, il y a une crise. Donc,
ce qu'il faut dire à Romaric, c'est quoi?
C'est que il faut se protéger, c'est l'idéal. Et si vous avez souvent des crises, il y a des traitements préventifs des crises qui permettent de diminuer beaucoup la transmission quand même.
Voilà, donc se protéger ou sinon aussi, donc retourner voir son médecin pour avoir un traitement de fond peut-être pour cet herpès.
Les traitements de fond, on les donne que si on a plus de 4 à 6 crises par an, pas
quand
si c'est rare. Parce qu'autrement, à un moment, quand on est en couple stable, c'est difficile d'utiliser tout le temps un préservatif, surtout que l'herpès, ça peut être au niveau de la peau aussi, donc le préservatif ne protège pas à 100% non plus.
Voilà, Romaric, pour cette réponse. Et on vous remercie beaucoup, docteur Catherine Solano, d'avoir répondu à toutes ces questions de nos auditeurs une nouvelle fois sans tabou. On vous retrouvera jeudi prochain pour d'autres conseils. Et bien sûr, continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook de l'émission, la page de Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et prépare cette émission. C'est Toussama Ké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Aujourd'hui, Laurent Snow. Demain, dans Priorité Santé, les 25 ans, je vais y arriver, de SIDAction, association programme mobilisation de lutte contre le SIDA, RFI partenaire de SIDAction. On se retrouvera donc demain avec nos invités.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.